le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour. Dans l'urgence de la crise environnementale que nous vivons actuellement, il est utile de se tourner vers l'histoire. Car les récits influencent notre vision du monde et sans recourir au rigoureux travail des historiens, notre culture générale repose souvent sur de fausses idées reçues. C'est vraiment ce que j'ai ressenti à la lecture de La Nature en Révolution, publiée aux éditions de La Découverte, le premier tome d'une histoire environnementale de la France qui est en cours d'écriture. Cela peut sembler surprenant, mais cette histoire des interactions entre les humains et la nature est récente et méconnue, alors que nous avons tant à apprendre. Vous allez, j'espère, le ressentir aussi à l'écoute de cette émission dans laquelle nous avons la chance d'accueillir trois historiens qui ont participé justement à l'écriture de ce premier volume consacré à la période 1780-1870.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Bonjour Jean-Baptiste Ressoz.
Bonjour.
Vous êtes historien des sciences, des techniques et de l'environnement et chercheur au CNRS. À vos côtés, Julien Vincent, bonjour.
Bonjour.
Historien des sciences et maître de conférence en histoire des sciences à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et en ligne avec nous depuis Bordeaux, Corinne Marache, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc dans le sud-ouest de la France et vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Bordeaux-Montaigne. Alors j'aimerais tout d'abord vous demander ce qu'est pour vous l'histoire environnementale, Jean-Baptiste Ressoz. C'est pas l'histoire de l'environnement.
Alors, l'histoire environnementale, c'est un champ qui s'est beaucoup développé depuis les années 2000, mais ça fait en fait, ça reprend des travaux plus anciens. C'est-à-dire, on n'est pas les premiers à s'intéresser évidemment aux relations entre les sociétés humaines et l'environnement. C'est une vieille question. Il y avait par exemple en France tout plein de travaux sur l'histoire des forêts. Donc il y avait ou sur l'histoire du climat, sur l'agriculture évidemment. Je crois que ce qui caractérise peut-être un peu plus l'histoire environnementale contemporaine, c'est qu'on prend au sérieux en fait la question de la crise environnementale et qu'on réfléchit à l'histoire de cette mise en problème de l'environnement. Quoi. Voilà. Je crois que c'est un peu ça, une vision en fait, où on restitue aussi la réflexivité aux acteurs du passé, c'est-à-dire les sociétés du passé n'ont pas simplement vécu les transformations climatiques de manière passive, elles ont réfléchi à ça, elles se sont posées des questions. Voilà. Je crois que c'est un peu ça qui...
Alors justement, Julien Vincent, c'est ce qui vous intéresse, vous, c'est cette histoire un peu des idées, et en fait, c'est important de faire cette histoire environnementale pour comprendre qu'on ne part pas de rien.
Oui, bah comme vous disiez, l'histoire environnementale, c'est pas l'histoire de l'environnement au sens de l'histoire des zones humides, des forêts ou des pollutions atmosphériques. C'est une façon de relire toute l'histoire, y compris les objets culturels et politiques. Ça va être c'est pour ça qu'on fait une histoire environnementale de la France, par laquelle on va passer à travers le prisme de questionnements, disons, écologiques ou environnementaux, pour relire tous les objets les plus classiques, traditionnels de cette histoire. Pas seulement, donc c'est donc pas une histoire de l'environnement.
Alors Corinne Marache, pour vous, c'est quoi l'histoire environnementale ?
C'est une histoire qui interroge justement ces interactions entre l'homme et les territoires, qu'ils soient urbains, qu'ils soient ruraux. Et pour prendre le regard de l'historienne des sociétés des espaces ruraux que je suis, elle participe vraiment, comme le disait Julien à l'instant, d'une véritable nouvelle manière finalement d'interroger des objets qui ne sont absolument pas nouveaux. Hein. On s'est intéressé à l'histoire des productions, à l'histoire de l'emprise humaine sur les forêts via l'impact, par exemple, des troupeaux, etc. Rien de nouveau en cela, mais effectivement, cette histoire environnementale se propose de relire finalement toutes ces pratiques et toutes ces grilles de lecture à l'aune de nouvelles manières d'interroger le passé.
Alors, c'est justement parce que de nombreux travaux sont parus que vous avez décidé de vous lancer. Donc, vous êtes tous les trois, là, Jean-Baptiste Ressoz, Julien Vincent et Corinne Marache, mais il y a aussi François Jarige et Thomas Leroux qui ont participé à ce premier volume « La nature en révolution, une histoire environnementale de la France 1780-1870 ». Il y a deux autres volumes qui vont paraître. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de débuter cette histoire en 1780, Jean-Baptiste Ressoz?
Alors, c'est en fait une date assez arbitraire, et c'était disons une manière de faire ce que Julien mentionnait, c'est-à-dire on réinterroge cet objet archi-classique qu'est la Révolution française à travers un regard environnementaliste. Et en fait, on se rend compte, par exemple, que les questions environnementales, les questions de bon usage de la nature, des sols, des forêts, des rivières, de ce que vous voulez, étaient centrales dans les discussions politiques pendant la Révolution française. Et on avait une historiographie qui était... qui s'est peu intéressé finalement à ces questions-là, alors qu'il suffit de regarder les comptes rendus des assemblées révolutionnaires, ils n'arrêtent pas de se disputer.
Nous allons en parler dans un instant.
C'était, je trouve, une date canonique. On voyait bien que revisiter cet objet canonique à travers les questions environnementales, ça renouvelait quand même notre regard sur des objets qu'on pensait très bien connus.
Et pourquoi 1870 comme date d'achoppement ?
Alors oui, parce que les trois volumes suivent une chronologie extrêmement classique, et donc c'est bien là notre démarche. On prend de la Révolution française, c'est le début de la période contemporaine. 1870, ça va être le début de la Troisième République. Puis ensuite, la coupure, c'est 1940, donc la fin de la Troisième République. On prend les coupures chronologiques les plus classiques, mais justement, on décale le regard pour montrer comment on peut relire cette histoire qu'on croit très bien connaître, mais du point de vue de nouveaux questionnements.
Voilà, donc on garde les repères, mais on regarde autrement. Alors, en quoi est-ce pertinent par rapport à vos thématiques respectives ? Par exemple, Jean-Baptiste Fressoz, vous êtes historien des techniques, des sciences et des techniques. Alors là, c'est sûr, c'est le siècle de la Révolution industrielle.
Alors, c'est le siècle où commencent à se diffuser, effectivement, des techniques liées au charbon qui transforment le climat. Après, les grosse transformation massive, c'est-à-dire faut pas confondre en fait le début des innovations et puis vraiment l'usage massif des innovations. Par exemple, moi j'étais frappé en regardant qui prend vraiment le chemin de fer avant 1870. C'est très très rare. C'est une élite qui prend le chemin de fer. Des petits calculs montrent que, par exemple, pour un ouvrier alsacien aller faire un aller-retour à Paris, c'est comme pour un ouvrier maintenant ou un employé maintenant d'aller à l'autre bout du monde, en fait. Donc ça coûtait extrêmement cher. L'essentiel des trajets au 19e siècle se fait à pied, mais l'écrasante majorité. Donc il faut vraiment voir que, justement, on a tendance à raconter cette période-là sous l'angle de la révolution industrielle. C'est peut-être pas l'angle le plus pertinent. C'est plus intéressant d'étudier, en fait, les pratiques agricole, et puis c'est un pays qui est encore fondamentalement agraire, en fait, jusqu'en 1870.
Voilà, là, ce sont juste les bases des évolutions qui
vont... Voilà, c'est le début de la mise en place, effectivement, mais la diffusion massive et les impacts massifs sur l'environnement sont ultérieurs. Entre 1789 et 1870, la France aurait émis, il faut prendre ça avec des pincettes, 1,5 milliard de tonnes de CO2. Pour rappel, en ce moment, la France émet chaque année 500 millions de tonnes, simplement si on prend l'empreinte nationale, et pas l'an d'un milliard si on prend toute l'empreinte de la consommation, en prenant les importations en compte. Donc on voit en fait, en 3 ans, en gros, on émet ce qu'on a mis en un siècle au 19e siècle.
Voilà, ce qui justifie le terme de grande accélération après la Seconde Guerre mondiale, mais ce n'est pas le sujet de notre émission aujourd'hui. Julien Vincent, il y a une impressionnante richesse des débats intellectuels, politiques et économiques sur la nature, sur cette période. C'est pour ça que c'était important pour vous de travailler là-dessus.
Oui, alors de même, comme disait Jean-Baptiste, on remarque une sorte de persistance, peut-être pas d'un ancien régime, mais de modes de production anciens, les techniques les plus traditionnelles continuent à jouer un rôle prépondérant. De même, sur le plan intellectuel, ces choses-là, les contemporains en étaient parfaitement conscients. Donc il y avait une perception de l'économie française qui était très très centrée sur ce que Jean-Baptiste Say, vous savez, l'économiste, l'auteur du traité d'économie politique de 1803 qui fonde la pensée économique moderne, il appelait le travail de la nature. En fait, les économistes les plus modernes, quand ils regardaient l'économie française, ils insistaient beaucoup là-dessus, sur cette économie organique, beaucoup plus qu'industrielle ou fondée sur le charbon, par exemple.
Voilà.
Donc là aussi, dans la continuité de la période antérieure. Et finalement, tout ce volume, il insiste beaucoup là-dessus, il regarde beaucoup ces phénomènes de continuité avec la période antérieure contre une vision un peu traditionnelle qui va dire qu'à partir de 1789, tout change. Alors nous, on voit des phénomènes de continuité aussi bien sur le plan technique, économique, et aussi intellectuel et culturel. Alors,
nous allons les détailler dans un instant. Corinne Marache, vous disiez, vous travaillez beaucoup sur les sociétés rurales et vous dites que c'est le moment où émerge une tension entre nature et culture.
Oui, parce que à l'issue de l'essor de l'idée et du mouvement des physiocrates à la fin du XVIIIe siècle, effectivement, il y a un courant de pensée, notamment chez les élites férues et passionnées d'agronomie, qui vise à rentabiliser la terre et donc à forcer la nature autant que faire se peut et à s'approprier finalement cette nature pour produire et pour en tirer parti, y compris des espaces qui jusque-là relevaient plutôt de l'inculte. Je pense aux communes tenait notamment aux zones humides qui étaient finalement, non pas exemple d'activité humaine, mais en tout cas qu'on ne voyait pas comme des espaces à rentabiliser. Et donc on a un véritable changement de paradigme, en tout cas du côté du discours des élites, pour effectivement s'approprier plus que jamais cette nature pour produire et la rentabiliser en lien avec le développement de l'industrie et de l'industrialisme de manière générale.
Nous allons explorer donc cette nature en révolution au XIXe siècle dans un instant, mais je vous propose d'écouter une ballade anglaise du XVIIe siècle. C'est un morceau qui a été déniché par François Porcheron. Il s'agit du Chant des paysans, composé par Gérard Whistanley, dans laquelle les diggers ou les bêcheux prônaient l'expropriation des seigneurs et le partage des terres. C'est une interprétation de Rosalie Dubois.
Quand apparut la République, dans les éclairs de février, tenant en main sa longue pique, la France fut comme un brasier. Dans nos vallons et sur nos cimes, verdit l'arbre de liberté. Mais les 45 centimes, et juin plus tard, ont tout gâché. Oh, quand viendra la belle, voilà des billes. Sans vergogne, voudrait nous mener sur Paris pour en faire une autre Pologne et nous atteler aux débris. Abat les menteurs et les traîtres, les tyrans et les usuriers. Les paysans seront les maîtres, unis avec les ouvriers. Au camp viendra la belle, voilà des billes et des 100 ans que j'enquêterai ta peine. République des paysans, République des paysans. La terre va briser ses chaînes, la misère a fini son bail. Les monts, les vallons et les plaines vont engendrer par le travail. Affamés, venez tous en foule comme des mouches sur le thym. Les blés sans mur, le pressoir coule. Voilà du pain, voilà du vin. Au camp viendra la belle, voilà des mille et des 100 ans.
C'était Rosalie Dubois et son interprétation du Chant des paysans, une ballade anglaise du XVIIe siècle qui vous a interpellé, Jean-Baptiste Fressoz.
Mais donc, les paroles évoquent effectivement ce qui s'est passé en juillet 89, quoi. C'est-à-dire en juillet 89, pour une partie de la paysannerie française, la fin des privilèges, des droits féodaux s'est perçue comme avoir le droit, avoir accès à des bouts de la nature qui avaient été monopolisés par l'aristocratie. Et il y a toute une dénonciation du système féodal comme contre-nature, comme quelque chose qui entrave la productivité de la nature. Par exemple, les bancs de vendange, si on les donne trop tard, ça peut gâcher la récolte. Donc il y a vraiment cette idée que si on change le système politique, la nature sera beaucoup plus généreuse, en fait. Et ça, c'est un discours qui est présent. Et qui fait peur aussi à l'élite révolutionnaire, hein, qui est à Paris, aux députés, qui voient d'un mauvais œil les paysans s'approprier ou se réapproprier des territoires dont ils s'estiment avoir été spoliés dans les décennies précédentes. Et il y a un lieu qui cristallise ce conflit, ce sont les forêts. Depuis les années 1760, vu que le prix du bois augmente, les aristocrates ont cherché à protéger des domaines forestiers pour produire du bois de manière intensive. Le problème, c'est que ces espaces forestiers, ils servent aussi à la vie de tous les jours pour faire son bois, envoyer paître ses animaux. Et donc, la Révolution s'est perçue pour beaucoup de paysans comme ce qui va permettre de nouveau avoir accès à ces forêts. Et ça, c'est vu avec horreur par les défenseurs de la propriété privée.
Vous citez la crainte, par exemple, de voir des paysans couper des arbres pour fabriquer leurs sabots.
Voilà, donc se crée une sorte de mythologie, hein, de légende noire autour de la forêt où tout aurait été permis. En fait, quand on regarde dans les archives, on voit que c'est plutôt des prélèvements organisés, où on voit la commune toute entière, qui de manière tout à fait ouverte, va faire les prélèvements dont ils ont besoin. C'est pas du tout l'anarchie qui est décrite parfois dans les sources imprimées. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est à ce moment-là que naît un discours environnementaliste qui cherche à gouverner les conduites populaires dans les forêts. Et donc, il y a tout un discours sur l'importance fondamentale de l'arbre et des forêts, par exemple, sur le climat, sur les équilibres de la nature en général, mais sur le climat en particulier.
Parce qu'il y avait déjà une conscience que si on coupait trop les forêts, on aurait moins de pluie.
Alors ça, c'est effectivement quelque chose qui est connu depuis... c'est un thème qu'on trouve depuis le XVIe, XVIIe siècle. Mais sous la Révolution, ça va prendre une fonction politique majeure parce que ça va être une manière de convaincre les paysans de respecter les forêts et de ne pas couper trop de bois parce que, ce faisant, ils risqueraient de dégrader le climat et donc produire des récoltes déficientes et donc la famine, en fait. Voilà, donc c'est vrai qu'on voit à quel point la Révolution, parce que c'est en fait une réorganisation du droit en général, en fait ça touche fondamentalement la question de la nature, parce que la nature est à la... C'est ce que disait Julien, c'est vraiment ça qui est à la source de toutes les richesses, quoi.
Oui, Julien Vincent, ça donne quand même... on voit à travers tous ces débats qui ont lieu au moment de la Révolution française que la richesse du territoire, ce sont les ressources naturelles. Et c'est pour ça qu'on en débat tant.
Oui, c'est ça. C'est un moment, à partir de 1789, de politisation de la question de la nature. Les républicains vont s'en emparer en disant que il faut la déféodaliser et puis il faut la républicaniser, c'est-à-dire la rationaliser, la donner à tous. Il va y avoir aussi d'autres groupes qui vont s'opposer. Par exemple, Gracchus Babeuf, très connu. Gracchus Babeuf, c'est celui, la conjuration des égaux. C'est un peu l'origine du communisme, l'une des origines possibles du communisme. Lui, il a sa propre conception de la politisation de la nature pour démocratiser le rapport à la nature. Donc c'est un moment de politisation. Alors, mais le régime républicain va aussi mettre en avant des penseurs officiels de la nature, et beaucoup de chimistes, c'est-à-dire des gens qui vont penser la nature en termes de flux. La nature française, le territoire français se pense comme un flux. Vous savez, c'est Lavoisier qui est vraiment une des grandes figures du début de la Révolution. Et lui, il va dire, au début, la Révolution, c'est les causes de la Révolution sont des causes financières initialement. Hein, le pays est en dette. Et Lavoisier, lui, il va essayer d'évaluer le crédit de l'État, le crédit de la France, en évaluant la richesse territoriale du royaume à partir de modes de pensée chimiques. Et donc, c'est-à-dire que ce qui peut résoudre la crise de la dette française au début de la Révolution française, c'est justement de s'appuyer sur les ressources de son territoire.
Et alors, un exemple typique, c'est la signa. La fameuse monnaie révolutionnaire, en fait, elle est gagée sur les biens nationaux qui sont essentiellement des propriétés forestières héritées du clergé. Et dans la presse qui est destinée aux campagnes, ils disent qu'il faut respecter les forêts parce qu'en fait, découper un arbre, c'est comme déchirer un assignat. Donc il y a vraiment on essaye d'inculquer à la population ce lien entre la richesse naturelle et puis la richesse financière, montrer que c'est un lien direct.
Oui, et Corinne Marache, il y a aussi un rapport au sol qui est aussi présent à cette époque-là. C'est aussi surprenant quand on vous lit, notamment avec les enjeux autour du fumier. Alors, le fumier des fermes, mais aussi le fumier des villes.
Oui, effectivement, le flux de matière qu'évoquait Julien tout à l'heure rentre aussi en ligne de compte lorsqu'on évoque la question de l'engraissement des sols. Le fumier des terres est insuffisant pour répondre aux besoins croissants parce qu'on a besoin d'une agriculture de plus en plus productive pour répondre aux besoins de la ville et que l'élevage, en la première moitié du 19e siècle, n'est pas encore très développé. Et donc, effectivement, au fur et à mesure que les villes deviennent de plus en plus peuplées, on va aussi récupérer ce qu'on appelle les boues urbaines, les déchets de la ville, les déchets essentiellement liés au vidange des ménages. Et on a tout un...
Ah, je crois que nous avons perdu Corinne Marache, mais nous allons la rappeler dans un instant. Donc, on parlait du rapport ville-campagne et de vidange. Oui, nous allons y revenir dans un instant. Mais ce qui est intéressant dans cette, si on reste sur cette période de la Révolution française, oui, Jean-Baptiste.
Juste sur les vidanges, un exemple que je trouve assez parlant. L'un des entrepreneurs les plus importants de Paris dans les années 1820, c'est celui qui a l'adjudication des vidanges. C'est-à-dire, c'est lui qui a le droit de récupérer le caca et la pisse des Parisiens, parce qu'en fait, on le fait sécher et ça devient, c'est une matière nutritive absolument vitale pour les agriculteurs.
Et aujourd'hui, on a un mal fou d'ailleurs à relancer cette idée que ça peut servir d'engrais. Il y a un vrai blocage psychologique, alors que à cette époque-là, il n'y avait aucun souci là-dessus. Je crois que nous avons récupéré Corinne Marache. Donc, vous parliez de l'importance donc de récupérer les déchets, comme dit Jean-Baptiste Fressoz, le pipi et le caca des habitants des villes en France au moment de la Révolution française. Et ça entretenait un lien ville-campagne, en fait.
Exactement. Alors, non seulement aux abords de la ville, hein, par exemple pour la région parisienne, tous les maraîchers qui sont situés en zone périurbaine de la capitale bien profitent à plein de ces boues urbaines et ça se perpétue tout au long du 19e siècle. On parle de cette théorie du circulus, finalement, hein, qui crée toute une circulation vertueuse entre les campagnes et la ville, les productions de la campagne étant consommées à la ville et revenant finalement à la campagne sous la forme de ces fameuses boues urbaines. Et il y a tous les matins des circulations de charrettes et de tombereaux qui viennent récupérer au petit matin ce pipi et ce caca des Parisiens, effectivement, pour l'emmener dans les campagnes aux alentours.
Et alors, Julien Vincent, vous le disiez tout à l'heure, en fait, c'est à cette époque-là, il y a vraiment une conscience de la richesse du territoire et des ressources naturelles de la France à partir de cette idée du cycle de la matière. Là, on parlait de cycle de la matière auquel s'articule le travail de l'homme et les flux d'argent. Tout ça est vraiment conceptualisé.
Oui, si vous regardez le débat écologique aujourd'hui en économie, en sciences économiques, une grande question, c'est de savoir comment passer d'une comptabilité purement financière à une comptabilité à la fois financière et matérielle qui permettra la planification écologique, la décarbonation, etc. C'est un débat qui est très actuel.
C'est la comptabilité extra-financière,
voilà,
d'ailleurs.
Elle ne sera pas seulement financière, mais elle sera aussi matérielle. Voilà, c'est à peu près la façon de penser l'économie des économistes chimistes du début du 19e siècle, de la Révolution et du début de Lavoisier. Pensez à les choses comme ça. Lavoisier, c'était à la fois un grand financier, c'était un fermier général, et c'était aussi un grand chimiste. Donc, il pensait en même temps les flux financiers et les flux de matière. Et en fait, les fondateurs de la statistique française, Chaptal, par exemple, qui était ministre de l'Intérieur et qui était un élève de Lavoisier, et puis tous ses continuateurs, c'est des gens qui ont pensé ces choses-là en même temps. Et donc, ils ont construit une vision de la France, une vision statistique, c'est-à-dire la vision officielle du territoire, comme un ensemble de flux inséparablement matériels et financiers.
Si je peux ajouter quelque chose, ça montre bien d'ailleurs que la comptabilisation des choses, de la nature, n'implique pas la protection de la nature. Chaptal, qui pensait la France comme un flux de matière à organiser et à optimiser, un des plus grands pollueurs du début du 19e siècle, qui va profondément réorienter la manière de réguler l'industrie pour rendre plus facile les investissements industriels polluants et protéger ces investissements-là des voisins qui râlent. Donc, bien connaître les choses ne veut absolument pas dire les protéger. Et ça, c'est un dilemme qu'on retrouve complètement dans la situation actuelle où tout est parfaitement compté, archi-compté, etc. Il n'empêche qu'on n'arrive pas vraiment à faire cette fameuse transition, quoi.
Non, ça c'est certain. Et alors justement, à propos de flux de matière, Jean-Baptiste Fressoz, vous avez signé le premier chapitre de ce livre. Et comme vous l'écrivez, c'est un portrait de la France en tonnes à l'époque, au moment où, donc, on l'a dit avec Corinne Marache, la population est majoritairement paysanne, évidemment, à cette époque-là. Mais c'est quand même une France qui a un rôle économique très important en Europe.
Alors la France a la particularité d'importer des matières pesantes et bon marché, et d'exporter des matières légères qui valent très cher. Donc elle a réussi à externaliser, d'une certaine manière, une partie de son empreinte environnementale sur les autres pays. La France est la plus grosse importatrice de charbon, par exemple, de très loin.
Mais elle de ses voisins.
De ses voisins proches. Hein. Les pays qui comptent vraiment en termes d'approvisionnement matériel de la France au 19e siècle, c'est avant tout la Belgique en 1. Parce que gros charbon, zinc et d'autres matières. L'Espagne joue un rôle très important dans tous les métaux non ferreux, le plomb en particulier. La Sicile, Voilà. Et très importante parce que c'est de l'acide qu'on tire le soufre, et le soufre, ça sert à faire l'acide sulfurique qui sert à faire la soude, qui sert à faire à peu près un nombre de productions absolument incalculable. Et l'Angleterre joue aussi évidemment un rôle très important. L'une des forces de la France finalement, et l'un des avantages de la France, c'est d'avoir été relativement bien placé entre deux superpuissances du charbon, la Belgique et l'Angleterre.
Pour alimenter la concurrence.
Exactement, ce qui lui permettait, en fixant les tarifs de manière astucieuse, de mettre en concurrence les charbonnages belges et les charbonnages anglais. Donc il y avait une politique douanière astucieuse pour arriver à approvisionner de manière bon marché, en matières premières, son économie.
Et donc à cette époque-là, il n'y a pas beaucoup d'échanges de volume avec les colonies.
Alors, avec l'Algérie, qui est évidemment la principale colonie, il y a assez peu de matières premières essentielles qui viennent de l'Algérie. Le commerce, ça va être de l'huile, du blé, mais il y a du minerai de fer quand même qui vient d'Algérie, mais c'est pas massif, effectivement. Par exemple, de manière surprenante, en 1860, enfin fin des années 1860, la France importe davantage d'Argentine, qui est quand même bien éloignée, que d'Algérie, qui est toute proche. Le commerce avec l'Angleterre représente 10 fois le commerce avec l'Algérie. Donc effectivement, l'idée que la colonisation du 19e siècle, c'est ce qui a nourri l'industrialisation, ça marche assez peu sur cette période-là. C'est ultérieurement que, effectivement, l'Afrique du Nord, avec les phosphates en particulier d'Algérie, de Tunisie puis du Maroc, deviennent très importants, surtout à partir de l'entre-deux-guerres en vérité.
Voilà, mais à cette époque-là, ce n'est pas encore le cas. La révolution industrielle, elle va apporter son lot d'évolutions techniques au cours du 19e siècle, ce qui va modifier évidemment le rapport des citoyens français à leur environnement, mais toujours avec beaucoup de questionnements. Nous en parlons dans un instant, mais d'abord place à la musique avec le groupe Alcazar. Voici Desse Barama sur RFI. C'était Desse Barama du groupe Alcazar, un titre que vous pouvez retrouver comme beaucoup d'autres dans la playlist de RFI disponible sur toutes les plateformes.
RFI, c'est pas du vent.
On est un peu dans la situation des révolutionnaires avant 1789 où il était impensable de prendre la Bastille. Il est impensable de transformer la société monarchique. Là, le corps national se pensait comme l'enfant du roi qui était le père. Donc comment un enfant peut-il vivre sans son père? Et pourtant, on a bien pris la Bastille.
Pour nous écrire, c'est pas du vent, www.rfi.fr.
Et donc là, je crois, c'est vrai, il y a un travail d'imagination, il y a un travail de décloisonnement mental à faire et de refus des évidences dues quand on nous dit aujourd'hui, on est revenu au discours du milieu des années 80 où on disait plus de croissance. Là, la croissance est la solution de tous les maux de l'univers.
Nous parlons de l'histoire environnementale de la France aujourd'hui dans C'est pas du vent avec trois historiens, Jean-Baptiste Fressos, Julien Vincent et Corinne Marache, qui ont co-écrit avec d'autres historiens La nature en révolution, le premier volume d'une trilogie consacrée à la période 1780-1870, publiée aux éditions de La Découverte. Alors Jean-Baptiste Fressos, il y a beaucoup d'idées reçues qui sont bousculées à la lecture de cette histoire environnementale, notamment celle que la révolution industrielle a eu lieu dans une logique de croissance et de prédation sans aucune conscience environnementale. Alors là, on a bien compris que c'est complètement faux.
Alors, c'est faux pour plein de raisons différentes. Alors, la première, par exemple, c'est lié à la médecine. L'environnement est absolument central en médecine au 18e, au début du... fin 18e, début 19e siècle, au moment où commence l'industrialisation. L'environnement, c'est ça qui explique les épidémies. C'est des changements dans l'environnement qui expliquent que tout le monde tombe malade dans le même espace. On n'a pas encore la doctrine bactériologique. Donc c'est sûr que l'environnement était pensé comme extrêmement important, d'autant plus que la différence entre l'inné et l'acquis est moins claire. C'est-à-dire on pense que si on transmet une partie des caractères acquis à nos descendants. Donc quand on change l'environnement, on peut même provoquer la dégénérescence de l'espèce humaine. Donc il s'agit vraiment de questions très lourdes. Ça n'empêche pas que l'industrialisation et son cortège de pollution aient eu lieu. Et l'autre raison importante, c'est qu'il faut se resituer aussi dans le cadre mental des gens de cette époque. La religion est extrêmement importante. La nature est une création. Et donc changer des bouts de la création, couper des forêts ou je ne sais quoi, ça a des effets sur l'ensemble de la création parce que tout ça est étroitement relié.
Alors justement, Julien Vincent, la quête d'une religion nouvelle est l'une des obsessions du 19e siècle et le sentiment de la nature est un mystère à déchiffrer.
Oui, bah, ça commence un petit peu avec la Révolution française. On connaît tous le calendrier républicain.
Enfin, on connaît tous.
C'est assez connu.
Vendémiaire, tous les mois.
Bah, oui, le calendrier républicain, c'est des nouveaux mois, vendémiaire, mais aussi des nouveaux... Au lieu de noms dessins par journée, on a des plantes utiles. Ou des instruments agricoles. Au lieu de s'appeler Joseph ou Marie, on peut s'appeler topinambour ou charrue. Il s'agit de remplacer le calendrier chrétien et finalement la nature va devenir un lieu de spirituel, une valeur spirituelle de substitution. Ça commence pendant la Révolution et en fait tout au long des décennies qui suivent au 19e siècle, il y a cette quête de trouver, refonder la religion sur un rapport avec la nature, ce qui finalement correspond à une très vieille tradition qu'on appelait la religion naturelle ou la théologie naturelle. Il y a deux manières d'accéder à la connaissance de Dieu. Il y a par la religion révélée, la Bible, et puis par l'étude de la nature, ce qui va donner une religion plus rationnelle et plus proche des sciences. Et ça, c'est quelque chose qui structure toute la vie intellectuelle et les débats aussi théologiques du 19e siècle.
Alors, c'est le succès du panthéisme, hein, cette philosophie d'après laquelle tout ce qui existe est identifié à Dieu, c'est un peu ça ?
Alors oui, si vous mettez la nature à la place de Dieu, si Dieu c'est la nature, là il y a une vieille tradition philosophique condamnée par l'Église depuis très très longtemps, c'est le panthéisme. Et il y a toute une partie des débats intellectuels, une grande partie des débats intellectuels du 19e siècle qui tournent autour de cette question. Est-ce que vous êtes panthéiste ou pas ? Alors très vite, ça devient une insulte. En fait, personne n'est panthéiste, et le mot, on le brandit pour l'opposer à son opposant. Alors l'Église catholique, catholique, il y a un curé qui s'appelle Henri Marais qui écrit un livre là-dessus en 1840. Il fait la liste de tous les panthéistes. Alors, bon, c'est tous ceux qui ne sont pas catholiques. Mais les catholiques eux-mêmes voient dans la nature revalorisent le rôle de la nature au 19e siècle comme le sentiment de la nature est théorisé comme un lieu d'accès à Dieu chez les catholiques eux-mêmes.
C'est dommage que nous ayons perdu cela, finalement.
Alors, je ne sais pas si on l'a perdu, parce qu'aujourd'hui, Laudatio Si, la célèbre encyclique du pape François, dit à peu près ça. Elle s'inscrit dans cette longue tradition.
Alors, ça a été une sorte de récupération, parce qu'à l'époque, enfin, je ne parle pas du pape François, mais je veux dire, à l'époque, l'Église catholique voyait ça quand même d'un mauvais œil, cette façon de relier un peu trop la nature à Dieu, ça lui faisait perdre de son pouvoir, non ?
Alors, oui et non, parce qu'on peut penser à l'abbé Grégoire, par exemple, l'abbé Grégoire avec ses arbres de la liberté, et puis il enseignait...
Alors, c'était quoi les arbres de la liberté de l'abbé Grégoire ?
Alors, si on revient à la Révolution française, c'était à la fois des symboles de l'adhésion à la Révolution française, et puis en même temps, ça permettait de planter des arbres, et puis d'améliorer améliorer le climat. Comme disait Jean-Baptiste, là, les forêts ont un rôle sur la circulation de la matière et puis assainissent l'environnement, on va dire. Donc ça a une double fonction, utile et spirituelle. Et l'abbé Grégoire, bon, c'était quand même un abbé. Il a été évêque de Blois.
Il était agronome aussi.
Il était agronome aussi, voilà.
Oui, c'était un personnage important de cette époque-là. Et Corinne Marache, à partir de 1850-1860, vous observez ce que vous appelez une rupture métabolique. Expliquez-nous de quoi il s'agit.
C'est-à-dire que, on revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure hein, sur ces flux entre ville et campagne, ils diminuent et puis surtout les fumiers qui sont insuffisants sont concurrencés, on va dire, par de nouveaux apports organiques pour le sol dans le contexte hein, de ce spectre, cette peur viscérale de l'appauvrissement des sols qui poursuit vraiment les populations depuis la fin de l'Ancien Régime et qui phénomène qui s'aggrave au XIXe siècle. Et donc, on a de moins en moins de flux entre ville et campagne, tout simplement parce que apparaissent ce qu'on appelle les déchets ultimes dans la ville, hein, en lien avec le développement des pollutions industrielles. Tous les déchets de la ville ne sont désormais plus forcément réutilisables dans les champs. Et dans le même temps, on a une concurrence, donc l'arrivée de nouveaux produits pour engraisser les sols venus d'outre-Atlantique, et ça rejoint ce que disait tout à l'heure Jean-Baptiste hein, sur les très nombreuses importations de matières premières de la part de la France.
Et donc ce sont les premiers engrais chimiques.
Alors, dans un premier temps, des engrais organiques avec l'importation du guano qui vient des côtes péruviennes et chiliennes, qui sont des déjections d'oiseaux. Et donc là, on a en gros des années 1840 jusqu'aux années 1870-80, plus de 13 millions de tonnes qui sont envoyées par exemple par le Pérou sur les côtes européennes pour aller donc fertiliser les terres européennes. Si bien que ces gisements sont épuisés en quelques décennies à peine. Mais ces routes et ces habitudes commerciales entre l'Amérique latine et la France préparent le terrain effectivement à l'importation de nouveaux engrais hein, liés à l'extraction notamment du nitrate de soude très très présent sur dans ces pays qui sont le Pérou et le Chili qui vont donc venir grossir les rangs des matières que l'on va utiliser pour engraisser les sols européens et français. Et les paysans, y compris la petite paysannerie, mais là on est à la toute fin de notre période, commencent à devenir véritablement friandes de ces engrais qui, évidemment, font l'objet de tout un tas de publicités et de discours de la part des notables agromanes qui essaient d'encourager une agriculture du progrès. Entre guillemets.
Mais là aussi, avec des doutes, hein, ce n'est pas accueilli forcément par tout le monde de la même manière. Il y a des questionnements sur est-ce qu'il faut les utiliser, est-ce qu'il ne faut pas les utiliser, est-ce que c'est si bon que cela pour le sol ?
Oui, alors il y a des doutes qui sont de plusieurs ordres. Alors effectivement, on constate quelques empoisonnements. On a des vaches qui consomment du trèfle qui a fait l'objet d'un traitement avec ces engrais-là qui sont empoisonnés. Mais il y a aussi et surtout beaucoup de doutes sur la véritable qualité de ces engrais. Il y a beaucoup de fraude parce qu'il n'y a pas encore de structure hein, mise en place pour véritablement surveiller la composition de ces engrais. Le cahier des charges n'est pas encore précis. Tout ça, ça se met en place à la toute fin de la période que l'on étudie dans cet ouvrage. Donc les doutes portent quand même au moins autant sur la véritable qualité de ces produits que sur leur dangerosité potentielle.
Alors ça, les doutes sur toutes les technologies qui arrivent, Jean-Baptiste Fressoz, ça émaille aussi toute cette histoire. On voit bien que ce n'est pas du tout consensuel finalement. Il y a beaucoup de débats pour tout ce qui est inventé.
En fait, toutes les grandes innovations qui vraiment transforment profondément les corps ou l'environnement, forcément, ça suscite des débats maintenant comme au 19e siècle. Donc on peut prendre près n'importe lesquels. Hein. Vous prenez la vaccination qui est sans doute la seule technique médicale importante du 19e siècle, la vaccination antivariolique. Ce sont des débats homériques pour ou contre la vaccination, les risques liés à la vaccination, etc. D'ailleurs, c'était pas forcément les opposants aux vaccins des années 1800, c'est pas du tout la même chose que les antivax maintenant. Parce que la vaccination en 1800 se faisait avec des méthodes plus discutable, on va dire. Si vous prenez les chemins de fer, pareil, évidemment, il y a des accidents de chemins de fer, donc les gens râlent, c'est normal. Enfin, et je ne parle pas de l'industrialisation chimique, où là, évidemment, les pollutions sont massives, évidentes, ça détruit les récoltes, donc il y a des procès, des avocats qui font un business d'aller encourager les paysans à faire des procès pour récupérer de l'argent et ils se rémunèrent sur une partie des dommages. Donc toutes les choses qui nous paraissent très modernes, effectivement, on les retrouve assez facilement au 19e siècle.
Alors nous avons parlé vite fait de l'Algérie tout à l'heure, où vous disiez que la France importait quand même
peu
de choses, mais avec au passage quand même une destruction massive du pays.
Alors c'est ça qui est assez déprimant, c'est-à-dire en fait la France finalement récupère peu d'éléments pour son industrialisation de l'Algérie, ça n'a pas empêché la coalition d'être une véritable catastrophe environnementale pour l'Algérie, mais principalement pour des raisons militaires. Il y a des travaux récents qui montrent à quel point la guerre de conquête au milieu du 19e siècle a été une guerre à l'environnement des Algériens. C'est-à-dire pour soumettre des populations rurales, une manière de faire, c'est de couper systématiquement les vergers. C'est d'emmener les troupeaux, qui sont évidemment l'assise de ces sociétés pastorales. Et en plus, ça permettait de rémunérer au passage les troupes françaises qui étaient mal payées. Donc vraiment, il y a eu une guerre à l'environnement en Algérie. Et je dirais les enfumades bien célèbres ne sont que la pointe émergée d'une guerre beaucoup plus générale. La razzia, en fait.
Oui, le mot razzia,
d'ailleurs. Le mot razzia symbolise bien ce terme. De manière intéressante, c'est un mot que les Français reprennent aux Algériens. C'était une manière de dire, en fait, cette violence-là, elle est traditionnelle en Algérie. Alors, ce qu'ils faisaient n'avait absolument rien à voir avec les raids traditionnels.
Alors, il y a beaucoup de dénonciations de destruction et de mauvais traitements infligés à ce que beaucoup d'intellectuels appellent une planète malade. Julien Vincent, ça traverse ça, la pensée politique du 19e siècle aussi ?
Oui, c'est-à-dire il y a beaucoup de remise en cause. Oui, alors, il n'y a pas une croyance unanime dans le progrès, mais il y a beaucoup de débats intellectuels là-dessus et sur des voies différentes possibles.
Oui. Et sur la planète malade, un élément qui est assez frappant, c'est à quel point la planète est perçue comme un corps vivant depuis longtemps, mais ça revient à la fin du XVIIIe siècle, avec cette idée, Julien parlait de cette religion naturelle, une possibilité de fonder un culte, c'est dire la planète est un être vivant et il faut d'une certaine manière vénérer cet être vivant. Ça fait partie des choses, des pistes qui sont explorées par ces cultes républicains qui se créent dans les années 1794-95.
Alors vénérer cet être vivant, mais le rendre aussi plus rentable, hein, Corinne Marache. Il y a la famille Villemorin qui arrive avec énormément de travail pour élaborer de nouvelles variétés végétales. Et il y a d'ailleurs un travail similaire en parallèle pour tout ce qui est sélection animale.
Oui, effectivement, on en parlait tout à l'heure, l'objectif est quand même de rentabiliser au maximum cette nature. Et dans ce contexte-là, effectivement, dans le monde agricole, on assiste tout au long du 19e siècle à tout un travail mené par tout un tas d'érudits, agronomes, mais aussi des botanistes, et j'en passe, qui visent à transformer le vivant. On rentre vraiment dans cette période d'une industrialisation du vivant qui, évidemment, va aller en s'accélérant beaucoup plus au XXe et dans le second XXe siècle. Mais on va dire que l'amorce démarre timidement au XIXe siècle. C'est le siècle où on va créer tout un tas de nouvelles variétés végétales. Vous évoquiez Villemorin qui invente une nouvelle betterave dont la teneur en sucre est beaucoup plus importante. Effectivement, au XIXe siècle, c'est important parce qu'il faut trouver un substitut à la canne à sucre et la demande des urbains est de plus en plus forte. Il va créer aussi des variétés de blé dont la teneur en gluten est plus importante et qui permettent au pain de lever plus rapidement et de répondre aux besoins d'une fabrication industrielle du pain, donc ça c'est pour les végétaux, et du côté des animaux, eh bien on a tout un travail d'amélioration des races. Alors on pense essentiellement aux bovins, effectivement, que l'on va améliorer soit par sélection, soit par croisement, et en la matière, les vaches anglaises, notamment la race Durham, va venir innerver et modifier beaucoup de races françaises, et il y a tout un débat entre les tenants du croisement et les tenants de la sélection, mais en tout cas la plupart des races que l'on connaît aujourd'hui sont fixés avec l'établissement de Earthbook qui dresse tout l'ensemble du cahier des charges auquel doivent correspondre les animaux. animaux qui permettent d'avoir des animaux performants qui répondent aux besoins, soit de production de viande, soit de production de lait. Mais ce n'est pas vrai que pour les bovins. Pensons par exemple au mouton Mérinos qui se développe au 19e siècle et qui lui est un mouton qui est modifié et travaillé pour avoir une laine évidemment beaucoup plus abondante et de meilleure qualité. Donc tout ce processus de transformation du vivant se met véritablement en place au 19e siècle.
Voilà, aussitôt, c'est vrai que c'est quand même assez surprenant de retrouver, d'apprendre tout cela. Et c'est aussi, alors rapidement, parce qu'on va arriver à la fin de l'émission, Corinne Marache, mais c'est aussi la période de l'invention des paysages et du développement de la sensibilité à leur égard. Vous consacrez tout un chapitre à ce sujet, c'est extrêmement intéressant.
Oui, complètement. En lien avec tout ce qu'on a dit, on voit que la nature est quand même mise à mal par cet élan productiviste et par les besoins d'une population évidemment qui ne cesse d'augmenter. Et donc, il y a toute une prise de conscience finalement de la disparition de paysages qui sont de plus en plus idéalisés et en lien avec l'essor du tourisme, la fascination pour des espaces qui jusque-là pouvaient apparaître comme anxiogènes et qui sont désormais des espaces qui fascinent et vers lesquels on se dirige volontiers. Je pense à la mer, je pense à la montagne. C'est la première ascension du Mont Blanc, c'est à la toute fin du 18e siècle. Et donc, on va voir les clubs alpins se développer au 19e siècle, ce tourisme et le développement de stations balnéaires qui participent d'une idéalisation et d'une fascination de la nature. Mais on le voit aussi du côté des peintres, romantiques, mais aussi tous les mouvements qui vont succéder font de la nature non plus simplement un élément de décor des tableaux, mais la nature devient un objet à part entière. Et donc cette nature fascine, on va la voir, on se déplace, elle devient véritable objet de fierté nationale. Et puis elle devient aussi un objet que l'on souhaite imiter et s'approprier. C'est le début par exemple de la taxidermie dans les foyers des élites. On voit les jardins anglais se développer, etc. On empaille les animaux et de la même manière, on va voir les zoos et les jardins d'acclimatation se développer aussi pour véritablement s'approprier cette nature qui fascine.
Alors, dans la conclusion de ce volume, je ne sais pas qui a choisi cette citation, mais vous citez Jacques-Élisée Reclus, donc ce géographe du 19e siècle, qui écrivait, lui, il se refusait à croire que les forces destructrices prévaudront. Et il écrivait, eh bien non, ce qui prévaudra, c'est l'idéal de l'homme. Tant que cet idéal ne sera que de s'enrichir, tout lui sera sacrifié. Mais quand l'homme sera délivré de cette peur de la misère qui le persécute aujourd'hui, quand il sera possesseur du loisir et cessera d'être esclave de la faim, enfin son profond désir d'embellir la terre se fera entendre. Julien Vincent, il n'était pas très visionnaire, Élisée Reclus.
Élisée Reclus, c'est quelqu'un de très intéressant, qui avait une pensée très riche. En fait, c'est l'un des théoriciens du nouveau sentiment de la nature dans un article pour la Revue des Deux Mondes dans les années 1860. Et il est aussi connu pour avoir dit que, c'est plus tard, en 1905, mais que l'homme, c'est la nature prenant conscience d'elle-même. Et c'est des formules très générales, philosophiques, très profondes, mais en fait, qui trouvent leur ancrage dans, justement, cette France du milieu du 19e siècle, dont il est issu intellectuellement.
Oui, mais malheureusement, comme vous l'écrivez, Jean-Baptiste Fressoz, ou je ne sais pas qui a conclu cette dernière phrase, en tout cas, c'est une phrase que vous avez dû choisir ensemble. Cette histoire environnementale de la période jette une lumière plus crue encore sur la stupidité du 21e siècle.
Effectivement, c'est-à-dire on est face à une société du 19e qui détruit assez peu l'environnement comparé à ce qu'on fait maintenant. C'est vraiment une toute petite économie et qui se pose plein de questions pourtant sur son devenir environnemental et technologique. Et donc, ça met en relief le fait qu'on se pose finalement assez peu de questions par rapport à l'énormité de notre empreinte actuelle.
Eh oui, c'est passionnant à lire. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La nature en révolution, une histoire environnementale de la France 1780-1870. C'est publié aux éditions de La Découverte. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci à Caroline Fillette et à François Porcheron pour la préparation et la réalisation. Prenez soin de vous, des vôtres et du monde. Nous nous retrouvons demain, même planète, même heure. Et dans une minute, c'est le journal sur RFI.